Savez-vous que la foi, c'est la chose la plus précieuse, la plus importante que chaque individu sur la planète devrait avoir? Dans le verset de la parole, puis dans la parole que notre sœur va nous dire, que la foi est plus précieuse que de l'or périssable. Comment est-ce qu'il y en a des gens qui sont empressés à se grayer de bijoux et à aller s'acheter les plus grosses bagues? Parce qu'à leurs yeux, c'est ce qui compte le plus, pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est votre foi. Ça, c'est beau, ça, c'est reluisant, ça a de la valeur à ses yeux. Puis il dit qu'il veut que vous gardiez cette foi-là jusqu'à la fin. Vous avez peut-être des moments difficiles à traverser. Attendez-vous sur la grâce de Dieu, parce que mon juste vivra par la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puis là, vous allez dire, « Ouais, mais en quoi mettre notre foi? » Ce matin, on va parler de l'Évangile de Dieu. C'est là-dedans qu'il faut mettre notre foi. Parce que c'est l'Évangile de Dieu. Tu sais, moi, je regarde la télévision de temps en temps, puis je suis découragé de voir la quantité de mauvaises nouvelles qu'il y a à la télévision. Puis j'écoute plus les nouvelles, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, on dirait qu'ils mettent l'ampleur à te présenter les meilleures mauvaises nouvelles qu'il y aura. C'est ça qui est le siècle aujourd'hui. On dirait qu'il y a comme une excitation. Plus ça va mal, plus qu'ils vendent des journaux. Il y a de l'argent à faire avec les mauvaises nouvelles. Puis ils ne parlent même pas de la bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle, l'Évangile de Dieu, le mot Évangile veut dire bonne nouvelle, puis c'est la bonne nouvelle de Dieu, ils n'en parlent même pas, parce que pour eux autres, ils pensent qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Mais nous autres, on le sait que si on parle de la bonne nouvelle, il y a de la foi qui va être greffée à cette bonne nouvelle-là, puis cette foi-là est plus précieuse que de l'or. Plus que de gens qui adhèrent à la foi, à la bonne nouvelle, par la foi, plus que ça a de valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est important. Gloire au Seigneur. Quand on parle de la bonne nouvelle, on parle pas nécessairement de l'Évangile, on parle pas nécessairement d'un livre, parce que on regarde les quatre premiers évangiles, ils appellent l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc. Quand on dit le mot bonne nouvelle, c'est pas nécessairement le titre d'un livre, mais plutôt le message qui est dans ce livre, qui est une bonne nouvelle. Ça, c'est véhiculé depuis 2000 ans. La bonne nouvelle de Dieu. Depuis que la promesse de Dieu, qui avait été annoncée bien avant, il annonçait la venue d'un Messie, la bonne nouvelle commençait là. Parce que c'était ça la bonne nouvelle, l'attente du Messie. Quand Jésus est arrivé, c'était l'accomplissement, le commencement de la bonne nouvelle. Dès le début de son ministère, Jésus a commencé à prêcher, puis sa prédication a dit « Croyez en l'Évangile de Dieu ». Dans Marc 1, 14, ça nous dit, vous n'êtes pas obligé d'aller lire, je vais vous les lire. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. C'est une bonne nouvelle que Dieu annonce aux humains, parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu que Jésus prêcha. C'est Dieu qui avait de quoi dire de bon, de beau, qui est en train de se préparer, puis c'était déjà accompli. Une bonne nouvelle, c'est réjouissant, mais celle-là, c'est la plus importante pour tout le monde en entier. On peut-tu réaliser l'importance de la bonne nouvelle quand on pense que Dieu lui-même a pris le temps de venir nous le dire? C'est pas n'importe quoi. Jésus, la Bible nous dit que c'était le Créateur de toutes choses. Il a quitté son trône pour venir parler de cette bonne nouvelle qui était accomplie. C'est fort. Ça nous fait voir comment c'est grand. Il y a une préparation à ça, au temps que Jésus est venu, puis cette préparation-là a commencé à partir de la création. Parce que Dieu l'a annoncé d'avance, depuis le début de la création qu'il en parle, qu'il viendra un sauveur. Quand on voit l'histoire dans Genèse 3,15, quand Adam et Ève ont chuté, Dieu il parle à Satan qui était dans le serpent, puis il dit « Je vais mettre une inimitié entre toi et sa postérité ». Ça ne nous dit pas que Satan avait un inimitié déjà d'avance sur la postérité des humains. Puis cette postérité-là, ça nous parle, entre parenthèses, la postérité de la femme qui est Jésus. Parce que il dit, dans cette prospérité-là, elle va t'écraser la tête. Oui, tu vas y blesser le talon, mais elle va t'écraser la tête. Déjà depuis le début que Dieu annonce aux hommes qu'il viendrait quelqu'un de la postérité de Ève qui viendrait écraser la tête du serpent. Dans la suite de l'histoire, il y en a plein de prophètes qui ont parlé dans ce sens-là. Mais ce Messie, dans l'accomplissement de cette promesse de l'attente d'un Messie, ça nous parle d'un temps qui est accompli, que le temps y est arrivé, que c'était là le temps que la bonne nouvelle commençait, que le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Puis Jésus, quand il prêchait ça, il incitait les gens à y croire. Parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas pour combien de temps tu vas en entendre parler. Dans Marc 1,15, Jésus disait, « Le temps y est accompli, le royaume de Dieu y est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'était quelque chose que Jésus savait que c'était important. Pas pour lui, c'est important pour tous ceux qui l'écoutaient. Que le temps y était accompli, la bonne nouvelle est en train de commencer, puis là, il les incitait à croire à ce qui était annoncé. Une ère nouvelle venait de commencer à partir de l'arrivée de Jésus, à partir de son ministère. C'est que le royaume de Dieu est descendu pour une tâche spéciale, pour l'ouverture d'un temps spécial dans la création. Il ne faut pas oublier que ça faisait déjà 4000 ans qu'il y avait de l'histoire sur la terre. Tout ce qu'on voit dans les livres historiques, même que ce qu'on peut lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça nous parle de guerre, de destruction, En tout cas, imaginez toutes les corruptions impossibles et imaginables, là, mais ça s'est tout produit. C'est dans des temps de noirceur totale où les humains étaient sans force. Il fallait que quelqu'un vienne pour venir régler ce problème-là. Mais dans ses explications, quand Jésus est arrivé puis qu'il leur expliquait que la bonne nouvelle était, le temps était accompli, puis là, il fallait qu'ils croient, il leur disait, dans Luc 4, 18-21, que l'Esprit du Seigneur était sur lui, Jésus. Puis il avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il avait été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis là, ça nous dit dans le texte, ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs, il s'assit, puis tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Dieu était là, l'onction de Dieu était là, c'était le oint, le Messie, le Sauveur qui était là, puis que cette parole était accomplie, qui avait été envoyée pour guérir, délivrer, donner de la liberté, puis donner un temps de grâce qui venait de commencer. Puis si on regarde dans le temps de cette époque-là, puis même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui a commencé à prêcher? C'est quoi qu'il est venu nous dire? Il nous parle de guérison, de délivrance, il nous parle d'un temps de liberté, un temps de grâce, puis les gens ne comprennent pas. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'il est venu faire, Jésus. Il faut comprendre ce qui se passait sur la terre dans cette période-là pour nous aider à comprendre l'impact de la venue de Jésus. Tout le monde le sait qu'au début de la création, avant la création humaine, Dieu avait créé des anges. Puis dans le royaume céleste, il y avait toutes sortes d'anges, des chérubins, des séraphins, des esprits de toutes sortes qui avaient des tâches, fonctions, des ministères différents. Puis ça nous parle qu'il y a une désobéissance, une rébellion qui est née parmi ces créatures invisibles-là. Puis se sont détournés de Dieu, ayant pour but de venir se faire un royaume sur la terre, puis de régner sur les créatures que Dieu avait faites. Leur chef, il s'est attaqué tout de suite au premier humain que Dieu avait créé. Puis tout le monde le sait, c'est le diable, Satan. Il est venu en forme d'un serpent, il était tenté Adam et Ève pour les faire désobéir envers Dieu. Puis par ce fait-là, il les a emmenés sous sa domination. Tant qu'ils marchaient avec Dieu, Adam et Ève, il y avait une liberté de pouvoir manger de l'arbre de vie. Ça leur communiquait la santé dans leur vie. Ça leur communiquait la vie éternelle que la Bible nous dit. Ils auraient pu vivre éternellement sur la terre, dans la présence de Dieu, dans la paix puis dans la joie. Tout ça, ça leur est enlevé. À cause de leur désobéissance, ils ont été chassés puis ont eu pour résultat la souffrance, des maladies, la mort physique, puis la mort spirituelle. Ça, c'était grave. Les premiers humains qui se présentent, ils ont tout perdu les promesses de Dieu, puis ils ont tombé sous la domination d'un tyran. Puis la Bible, elle nous dit que tout humain qui naît dans ce monde reçoit le même héritage. Parce que dans Romains 5, 18, ça nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Satan, il a eu un droit de passage de régner sur la vie d'Adam et Ève à cause du péché. Puis il s'est servi de ça pour exercer son contrôle sur eux. L'obéissance d'Adam et Ève, ça a amené toute l'humanité à être esclave du chérubin tyran qui s'appelle Satan. Dans 1 Jean 5, 19, ça nous dit, « Nous savons que, trois petits points, puis à la fin de la phrase, que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est depuis le début de la création que le diable règne sur le monde entier. Il règne encore aujourd'hui, puis il exerce son influence, son contrôle sur les gens. » Ça, c'était dans le temps de Jésus qui a annoncé cette parole, c'est l'apôtre Jean. Il a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. De génération en génération, la même roue se répète, les gens y naissent, ils se font emmener par les esprits des ténèbres, ils désobéissent à Dieu, ils meurent après une vie de problèmes et de difficultés, ils sont sans espérance que ça puisse changer, puis ils meurent dans leurs conditions, ils meurent dans leurs péchés, puis ils sont séparés de Dieu à cause de leurs péchés. Puis en plus, il y a un jugement qui les attend. La Bible, elle nous parle qu'il y a un jugement à la fin des temps, puis elle nous parle d'une résurrection, puis elle nous parle qu'on va avoir à rendre compte, chaque individu sur la terre va avoir à rendre compte de sa vie pour ses paroles, ses pensées, ses actions. Puis c'est encore plus grave, la Bible, elle nous dit, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » La rébellion La nature de rébellion qu'on a héritée d'Adam et Ève a fait que nous-mêmes on tombe dans la rébellion, on est bourré de péché, puis on est privé de sa gloire. C'est depuis le début de la création que ça se vit. Les humains, ils n'avaient par eux-mêmes aucun moyen de s'en sortir. Tous se faisaient manipuler, tous y étaient aveuglés, puis il y avait d'épaisses ténèbres sur la terre, puis la mort planait sur tous. Certains ont essayé de pratiquer la loi de Dieu pour arriver à être en paix avec Dieu. La loi de Moïse est venue, Dieu a quand même expliqué c'est à quoi les bornes de sa volonté, comment est-ce que les humains devaient se comporter, il a donné la loi à Moïse. Puis il y a des humains qui ont dit, ben peut-être qu'en pratiquant la loi, je vais commencer à rajuster ma vie dans les normes que Dieu s'attend, puis par le fait même, je vais pouvoir gagner mon ciel. Mais c'est en vain, parce que la Bible nous dit dans Romains 3:20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Personne ne pourra être déclaré juste en pratiquant la loi. Les humains étaient déjà dans une nature de péché, dans une nature héritée d'Adam et Ève, puis tout le monde ont désobéi. Il y a un autre verset qui nous le dit dans Romains 3:10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Fait que tous ceux qui avaient dit, « Oh, je vais mettre mon espérance à commencer à pratiquer la loi, » pour finalement réussir à rentrer au ciel, il était fait avant de commencer parce qu'il était déjà pécheur. Il était déjà en dette envers Dieu. Puis même s'il aurait décidé de commencer à vivre d'une manière sainte et parfaite à partir d'un moment qu'il l'a réalisé, puis ce qui arrivait avec toute la quantité de ses péchés qu'il avait accumulés jusqu'à ce jour, puis la Bible nous dit qu'il n'y en a aucun qui est capable de pratiquer la loi tout entière sans tomber dans le péché. Fait que finalement, c'est impossible d'être sauvé, d'être justifié par la loi. Fait qu'il y en a d'autres qui se sont inventés toutes sortes d'autres manières pour s'approcher de Dieu. Parce que dans le fond, l'humain voulait marcher avec Dieu, voulait avoir un contact avec Dieu. Puis c'est là que se sont inventés un paquet de religions. Déjà présentement, on peut recenser des milliers et des milliers de religions qui existent actuellement. Puis s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça existait aussi dans ce temps-là. Des milliers de religions, de toutes sortes, des religions païennes, vouées à n'importe quel dieu que quelqu'un aurait pensé d'inventer à un moment donné. Il y en a qui pense, ah, Dieu, je pense que lui, c'est comme la forme d'un veau. Fait qu'il sculpte un veau, puis il commence à servir le veau, pensant de se rapprocher de Dieu. Il pensait bien faire, puis il commence à se prosterner devant ce veau-là, puis commence à servir ce veau-là. Il y en a d'autres qui ont inventé d'autres manières d'arriver à une certaine purification par leur esprit, en faisant le vide, puis en réclamant la force de la nature de venir changer quelque chose à quelque part. Les gens y essayent désespérément d'arriver à contacter Dieu, puis de réussir à refaire la paix avec. Puis c'est en vain parce qu'ils ne s'adressent pas encore au vrai Dieu. Même si tu aurais la meilleure religion, qui t'amènerait un mode de vie le plus parfait qu'il n'y a pas sur la planète, il faut quand même se référer à la révélation de Dieu pour voir si c'est vraiment ce que Dieu s'attend pour nous autres, afin de ne pas courir en vain. Mais sans y parvenir à leur purification, il y en a d'autres qui ont décidé de servir et de vénérer directement les démons qui régnaient sur eux autres. Parce qu'il y en a qui sont conscients qu'il y a des démons dans leur famille, c'est transmis de génération en génération. Il y en a qui sont conscients qu'il y a des démons dans leur tribu ou dans leur peuplade, parce qu'ils sont emmenés par des sorciers, des chamans, puis il y a vraiment des manifestations spirituelles qui se passent là, où il y a des apparitions, puis il y a des visions, puis il y a toutes sortes de rêves, puis ils interprètent ça à leur manière selon ce que cet esprit-là leur communique. Puis ces gens-là vénèrent ces esprits-là qui, en fin de compte, ces gens-là sont deux fois plus piégés par les démons qui sont là, puis qui les tiennent assujettis, puis qui les tiennent dans l'ignorance, puis les tiennent dans l'aveuglement. Puis si on regarde là la misère de l'humanité, qu'est-ce qui est en train de vivre, ce que depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, ce que l'humanité entière essaye de faire pour parvenir à rentrer en contact avec Dieu, comment est-ce que les gens ils sont pognés par toutes sortes de religions ou de cultes à n'importe quoi, pensant rencontrer Dieu, pensant faire la paix avec Dieu, puis par eux-mêmes, ils n'ont aucun moyen, aucune force de pouvoir y arriver. Il fallait que quelqu'un vienne les sortir de l'ignorance, de l'esclavage qu'il est en train de vivre. Il fallait que quelqu'un vienne puis qu'il libère du péché puis qu'il libère de la mort. Sans cela, l'humain, il était perdu. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait venir les aider. C'est Dieu lui-même. L'humanité entière s'est livrée à elle-même, là. Il n'y a rien à faire, elle s'en sortira jamais. Puis si Dieu n'a pas décidé de dire, ben là, j'y vais, puis je vais venir mettre un terme à ce qui se passe là, je vais venir régler ce qui est de travers, puis je vais venir leur dire ce que je m'attends pour eux autres. S'il ne sera pas venu, l'humanité entière continuera à s'en aller vers la perdition. Puis c'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. C'est que Dieu s'est approché des hommes pour les sortir de leur situation dans laquelle ils vivent, pour leur donner une seconde chance. C'est annoncé d'avance par les prophètes qui viendraient ce sauveur-là. Dans Isaïe 59:20, j'en nomme rien qu'un, mais il y a plusieurs passages qui en parlent. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Ce rédempteur-là, savez-vous c'est qui? C'est Jésus. C'est là que les paroles de Jésus prennent du sens. Quand il disait dans Marc 1:15, il disait « Le temps il est accompli, puis le royaume de Dieu il est proche, il est à côté de vous. » Autrement dit, « Je suis là devant vous, je suis le royaume de Dieu. » Puis il leur disait « Repentez-vous puis croyez-y à la bonne nouvelle. » Elle venait de commencer. Le temps il était accompli. C'était le temps des guérisons, des délivrances, de la liberté des liens sataniques. Puis que la grâce était commencée, que les gens pouvaient être sauvés, même s'ils avaient vécu une vie de péché, par-dessus la tête. Tout le monde se rappelle de l'histoire de la prostituée. Elle était méprisée des apôtres, puis de ceux qui la connaissaient. Mais Jésus, il dit, t'es pardonné parce que t'avais mis ta foi. C'est là qu'on voit l'importance de la foi. C'est plus précieux que de l'or. Cette personne-là qui était perdue à cause de sa foi, elle a été sauvée. Merci Seigneur de cette bénédiction qu'il nous a accordée. Mais il n'a pas juste fait le salut des gens, il a aussi accordé des guérisons. Combien de personnes qui ont été guéries par Jésus? Jean, il dit, si on aurait écrit tout ce que Jésus a fait, il dit, pense même pas qu'il y aurait eu assez de livres pour écrire tout ce que Jésus a fait. Il a fait des millions de guérisons. Ben, mettez-en, il y en a qui ont été guéris même en rien qu'en pensant, en priant. Parce que les guérisons, ils n'ont pas été juste dans le temps de Jésus. Il y en a encore aujourd'hui des guérisons. Il y en a qui parlent au Seigneur, puis ils demandent, puis ils sont guéris. Alléluia! Il a fait aussi des délivrances dans ce temps-là. Il est arrivé devant des gens qui étaient liés par Satan, puis il les a libérés dans son nom, dans le nom qui est le nom de Jésus. Il libérait les captifs, puis il renvoyait libres les captifs. Parce que l'onction de Dieu était sur lui, les gens s'en retournaient libérés de la puissance des ténèbres. Puis il y en a d'autres encore qui sont libérés de la puissance des ténèbres par la foi en Jésus seul, qui est le Sauveur du monde, le Messie attendu. Puis il y a une liberté qui commence, parce que la Bible, elle nous le dit, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si une personne décide de faire la paix avec Dieu en se tournant vers Jésus, l'onction du Seigneur rentre dans sa vie, l'Esprit de Dieu vient dans cette personne, puis il y a une vie de liberté qui commence. Il est venu pour proclamer la liberté, puis ça se fait. Ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment des choses qui s'est passées il y a 2000 ans, puis il s'en passe encore aujourd'hui. Le temps de la grâce, il a commencé. L'année de grâce du Seigneur est commencée. Puis là, il y en a plein des gens qui sont grâciers. Grâciers de leurs fautes, guéris dans leur maladie, délivrés de les esprits qui étaient captifs. Puis il y a plein de gens qui goûtent à la délivrance du Seigneur. Jésus, il est venu pour mettre un terme, mettre un frein aux œuvres du diable. Dans 1 Jean 3,8, ça nous dit, « Le Fils de Dieu, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le diable, il œuvre depuis le commencement, il a tenu l'humanité captive à travers tous les siècles, il tenait les gens liés, il tenait dans la maladie, puis il tenait dans le péché, puis il tenait dans un état de séparation. Puis Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là, pour donner une année de grâce, une année de bénédiction, où ce que les gens pourraient venir à lui, être guéris, être délivrés, puis être sauvés gratuitement. Alléluia! Paul y annonçait l'Évangile, puis il répétait la même idée dans Actes 10, 38. Il dit, « Vous savez comment Dieu, il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu y était avec lui. » Alléluia! Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient devant lui, il les guérissait. Que ce soit pour des guérisons, des délivrances, pour leur accorder le salut, tous ceux qui se présentent à Jésus reçoivent le salut. Alléluia. Puis ça nous dit qu'il délivrait les gens de l'empire du diable. Quand on parle du mot empire, le mot grec veut dire quelqu'un qui exerce un contrôle rude sur quelqu'un, qui use de son pouvoir pour opprimer puis tyranniser. C'est ça que le diable fait sur les gens. Il le fait encore aujourd'hui sur des gens. Il les tyrannise, il les opprime, puis il exerce un contrôle rude. Il use de son pouvoir pour détruire. La Bible nous dit à une autre place que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais c'est là que ça nous dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Savez-vous que ça prenait quelqu'un de plus fort pour s'opposer à cette tyrannie? Jésus aurait été moins fort que le diable, il n'aurait pas pu le vaincre. Mais la Bible nous dit dans Luc 11, 20 à 22, c'est Jésus qui est en train de parler, puis il explique sa vérité-là, parce qu'il est en train de délivrer des gens des démons, puis les pharisiens, les gens religieux de cette époque-là, ils regardaient Jésus, puis ils disaient, « C'est par Belzébuth qui chasse les démons. » Jésus leur a dit, « Mais c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Ça veut dire que le royaume de Dieu il est venu vers vous. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, puis il distribue ses dépouilles. Ça prenait un homme plus fort pour venir déloger l'homme fort. Savez-vous que l'homme fort, dans sa maison, était où sa maison? C'est qu'il a pris possession de toute la terre. Même si la terre appartient au Seigneur, la Bible a dit que le monde entier était sous la puissance du malin. C'est un homme fort, puis avec, il y avait des armes qui pouvaient garder ses captifs. Mais il nous parle qu'à quelque part, le doigt de Dieu est descendu. Puis Jésus, par le doigt de Dieu, délivrait les démons. Ça prenait pas grand-chose, juste son doigt. Le bout de son doigt. Kings! Et voilà, les libertés y arrivaient, les guérisons y arrivaient, les gens, ils sautaient de joie d'être guéris parce que le doigt de Dieu venait de descendre puis venait de commencer à œuvrer. Il disait que dans ce passage-là qu'on vient de lire, qu'il était en train de lier cet homme fort-là puis de le dépouiller de ses armes. Parce que quand il délivrait les gens, ça veut dire qu'il venait de lier cet homme-là, qui contrôlait cet humain-là, il venait de le lier, puis il venait de le dépouiller de ses armes, puis il laissait l'humain s'en aller dans la liberté, dans la guérison, dans la restauration, dans les bénédictions des promesses de Dieu. Tout le long de son ministère, Jésus a combattu le diable. Mais savez-vous qu'une des plus grandes victoires, c'était quand Jésus est mort? Ça nous parle qu'à sa mort, Jésus a dépouillé l'ennemi de ses armes. Dans Colossiens 2,15, ça nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a eu une victoire complète sur l'ennemi, puis il l'a dépouillé de toutes ses armes. Le diable, en fin de compte, depuis le temps de Jésus, depuis le temps de sa mort, il n'a plus d'armes pour tiennier les gens. Sauf qu'il exerce encore un contrôle, mais on va voir pourquoi. Quand Jésus avait envoyé les 12 apôtres pour évangéliser, il leur a dit, chassez les démons, guérissez les malades. Il a envoyé les 70, ils ont continué à aller prêcher l'évangile, puis ils guérissaient les malades, mais ils chassaient aussi les démons. Quand ils sont revenus voir Jésus, il dit, hey, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus, là, il leur a dit de ne pas se réjouir, mais il leur a dit aussi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Chaque fois qu'un disciple utilisait son autorité, Satan est piqué en débarque des lieux célestes. Parce que Satan, dans le temps de Jésus, il est encore dans le ciel, il est encore en train d'accuser les frères, il est en train d'accuser l'humanité entière, il exerçait son contrôle, puis il était rude son contrôle. Puis quand les disciples de Jésus ont commencé à utiliser son autorité que Jésus leur remettait, Satan piquait en débarque, il tombait, il débarquait de plusieurs personnes. Parce qu'il y a des victoires qui se gagnaient quand les disciples utilisaient l'autorité. Mais Jésus, quand il est mort, mais juste avant de mourir, il a dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, puis maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il avait commencé à piquer des débarques avant sa mort, parce que là, il prenait autorité, puis il débarquait. Mais quand Jésus s'en allait mourir sur la croix, c'était afin de débarquer totalement Satan du ciel. C'est Jésus qui le dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, puis maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » On a une image de ça dans l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 à 11. Il dit, ça nous dit, « Il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. » Quand on parle du dragon, c'est Satan et tous ses anges qui étaient avec. Mais il y a eu une guerre, Michel qui est le chef des anges de Dieu, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais il a combattu contre le dragon dans le ciel. Puis ça nous dit qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis ça nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que le salut est arrivé. Parce que le temps était accompli, Jésus avant de mourir, il a dit maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Mais Jésus, en remportant la victoire sur la croix, il a fait qu'il y a une guerre dans le ciel, puis la guerre était accordée aux anges de précipiter Satan sur la terre. Il n'y avait plus de place pour lui dans le ciel. Puis ça nous dit, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu, jour et nuit, celui qui les accuse. On vous relit cette phrase-là. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il était là auprès du trône, puis il accusait à cause de la loi. La loi était là qui mettait en évidence le péché, puis tout le monde qui voulait marcher dans la foi, ça arrivait qu'il tombait, fait que lui, il accusait, fait que personne ne pouvait être justifié. Fait que là, quelque part, il fallait que quelqu'un paye le prix, puis qui remporte la victoire, puis à cause de ça, il n'était plus capable d'accuser le monde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan y accuse les frères à cause de la loi, puis il réclamait des gens pour les attaquer. Parce que ça nous le dit aussi que Pierre, à un moment donné, Jésus dit à Pierre, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Jésus voyait ce qui se passait dans les lieux célestes, puis il a dit, « Mais dis-moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Jésus combattait contre l'ennemi, puis contre toutes ses attaques, puis quand, à minute que tu rentres dans la famille de Dieu, à minute que tu rentres dans le plan de rédemption, Jésus commence à te défendre. Jésus commence à te défendre. Jésus commence parce qu'il dit, on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Il est là, puis il lutte contre ce que les réclamations de l'ennemi. Mais c'est pas juste que le diable piquine des bagues du ciel, ce qui s'est passé sur la terre quand Jésus est mort sur la croix. Ça nous dit que aussi Jésus il a vaincu la mort, puis qu'il a ressuscité des gens, puis il est ressuscité lui-même. Dans 2 Timothée 1,10, ça nous dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, puis a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La Bible elle nous dit, quand Jésus est mort sur la croix, il a détruit la mort, puis a mis en évidence la vie, puis l'immortalité, par l'Évangile. Parce que si Jésus n'aurait pas ressuscité, on n'aurait pas eu aucune preuve qu'il y avait vraiment une vie après la mort. On n'aurait pas eu aucune preuve qu'il y aurait une continuité de la vie après la mort de chaque personne. Mais là, Jésus, suite à son témoignage, suite à ses actions, ses œuvres de combat contre les attaques de l'ennemi, il est mort lui-même. Puis le troisième jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est retourné auprès de son Père. Il a vaincu la mort. Parce que la mort a régné sur tous les hommes. À partir d'Adam et Ève, tout le monde avait vécu la mort, sauf une exception. Puis, il n'y avait pas personne qui avait réussi à ressusciter vraiment pour donner une victoire à l'humanité, puis une espérance qu'il y aurait une résurrection, puis ça prenait quelqu'un qui vienne, puis c'est Jésus qui est venu le faire. Quand il est mort sur la croix, il a vaincu la mort, puis il a mis que c'était en évidence que la vie était possible, puis l'immortalité était possible par l'Évangile, par la foi en l'Évangile. La bonne nouvelle nous annonce aussi qu'il a expié les péchés de toute l'humanité. Il n'a pas expié juste mes péchés, il n'a pas expié juste vos péchés, qu'il a expié les péchés de toute l'humanité. Dans 1 Jean 2,2, ça nous dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire que tu peux t'approcher de lui avec confiance parce qu'il pardonne puis il est compatissant. Tu veux être délivré, tu veux être pardonné, demande-lui, puis il va le faire sur le champ. Parce qu'il est venu pour ça. Savez-vous que Satan il utilisait les accès donnés par le péché? Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, il était là le péché. Là, Satan a utilisé cet accès-là, puis il a commencé à régner sur Adam et Ève. Il utilisait les accès du péché. Mais à cause que Jésus, ça nous dit, qui a payé, qui a expié les péchés de toute l'humanité, en fin de compte, le diable n'a plus de droit légal d'utiliser le péché pour entrer dans la vie d'une personne puis exercer son contrôle, parce que le péché de l'humanité en entier a été expié. Satan, il utilise juste les accès que les gens leur permettent d'utiliser. Parce que les gens n'utilisent pas le moyen de rédemption et de salut qui est en Jésus. Fait que l'humanité entière qui est dans l'ignorance n'utilise pas le seul moyen pour sortir de là. Pourtant, Jésus l'a effacé le péché. Il a payé pour les péchés de l'humanité. Puis Satan, il est comme usurpateur, puis il continue à utiliser encore le péché non confessé pour exercer son contrôle sur les gens, parce que, dites-vous bien, chaque fois que vous demandez pardon au Seigneur, le Seigneur vous pardonne, puis le diable n'a plus aucun droit d'agir sur votre vie. C'est un fait, puis c'est biblique, puis c'est ça qui est l'Évangile. Ça ne nous dit pas qu'on va devenir parfait. On tend vers la perfection, on va en faire régulièrement. Bien, on devrait arrêter finalement d'en faire un moment donné, mais ça peut arriver qu'on chute dans le péché. Mais si on demande pardon au Seigneur, il nous pardonne de tous nos péchés. Puis il nous relève, puis il nous délivre même ce que l'ennemi a essayé d'utiliser comme accès pour nous capturer. Parce qu'il veut rendre libres les opprimés. Jésus n'a pas juste fait ça à sa mort. La Bible nous dit que Jésus s'est aussi chargé des maladies. Dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, puis il s'est chargé de nos maladies. Tant que Jésus est mort sur la croix, il prenait pas juste les péchés de l'humanité puis les expiait. Il a pris aussi toutes les maladies de l'humanité puis il les a expiées en mourant sur la croix. Il a déjà payé la dette de toutes les maladies qui existent sur la planète. Tout ce qui aurait pu être la cause de chaque maladie qui existe, il a payé la dette. Que ce soit il y a une maladie que vous avez aujourd'hui à cause des conséquences directes d'Adam et Ève, ou à cause d'un péché que vous avez commis dans votre vie, ou à cause d'un péché de vos pères, Jésus a payé tous vos péchés. Il a payé les péchés des parents, puis il a expié les maladies aussi. Fait qu'on peut arriver puis aller à Jésus, puis de recevoir gratuitement des guérisons qui viennent de sa part, parce qu'ils sont déjà payés. Si vous êtes guéri aujourd'hui, si vous avez reçu des guérisons, c'est parce que Jésus les a expiés il y a 2000 ans. Alléluia! Il est digne d'être loué. Tu peux t'approcher de Dieu librement pour être guéri de toutes tes maladies. Parce que le sang de Jésus, son œuvre accomplie sur la croix, est encore efficace aujourd'hui. Puis merci Seigneur, on a des preuves. Il y en a plein d'entre vous qui ont déjà reçu des guérisons de la part du Seigneur. Puis c'est pas tout ce que Jésus a fait quand il est venu. Savez-vous que Jésus, il a accompli la loi de Moïse? Ce que les humains essayaient de faire, de pratiquer la loi pour arriver à leur propre justice, pour arriver à être déclarés justes eux-mêmes, puis personne ne pouvait l'atteindre, mais Jésus est le seul qui a réussi à accomplir la loi de Dieu, la loi de Moïse. Matthieu 5, 17, Jésus lui-même a dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus, il a accompli la loi. Ça nous dit un autre passage qui a effacé l'acte de la loi qui nous condamnait. Dans Colossiens 2, 14, ça dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. » Quand Jésus a été cloué sur la croix, il a détruit l'acte qui pouvait arriver à condamner un individu. Ça veut dire que n'importe quel individu qui se tourne vers la croix, qui se tourne vers Jésus, peut recevoir le pardon des péchés, mais en plus, il n'y a plus de loi qui le condamne. Parce que Jésus, il a cloué cette loi-là. Il l'a cloué sur la croix. Tous ceux qui... Ça nous dit aussi que Jésus a été déclaré juste selon la loi qui existait dans ce temps-là, parce qu'il n'a commis aucun péché. Hébreux 4:15 nous dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » En fin de compte, ça prenait de quelqu'un comme lui pour venir nous sortir de toute l'emprise que l'humanité était. Une emprise de péché, une emprise de perdition, une emprise de maladie, de souffrance, de mort. Ça prenait quelqu'un qui vienne tout accomplir. On peut être maintenant recouvert de la justice que Jésus a reçue parce que lui était déclaré juste, parce qu'il n'a fait aucun péché. Puis si quelqu'un se tourne vers Jésus, il peut être recouvert de la justice de Jésus sur lui. Afin que quand Dieu regarde cette personne-là qui a donné sa vie à Jésus, Dieu voit Jésus à travers la personne. Il voit la justice de Jésus. Quand il nous voit parfait comme Jésus était parfait. Il nous voit comme si on avait accompli toute la loi entière. Puis il nous voit comme quelqu'un qui est sans péché. Si on retombe, c'est sûr que là, il ne faut pas rester dans cette situation-là. Il faut demander pardon. Puis le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il faut garder toujours cette espérance-là. Jésus, après sa résurrection, il a reçu tout pouvoir de son Père. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Jésus, quand il est venu en forme humaine, ça nous dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Ça nous dit qu'il avait quitté la forme de Dieu, puis il est devenu comme un simple serviteur. Ça nous parle d'un renoncement qu'il a fait de certains attributs de sa personne qu'il avait en forme de Dieu. Il est venu en forme humaine, il était Dieu, la personnalité de Dieu, mais il était guidé par le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection, il a dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'est approché après qu'il soit ressuscité, puis il leur parlant ici, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire qu'au début, je vous disais que le monde entier, c'était la puissance du malin, puis à quelque part, en même temps, tout pouvoir a été remis à Jésus. Là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas que c'est plus évident que ça, que Jésus a reçu tout pouvoir? Comment ça se fait qu'on ne voit pas que c'est Jésus qui est en train de régner, puis que le diable, que ses œuvres sont complètement arrêtées, puis que là, on voit rien que du bien sur la terre? » Mais ça, c'est à peu près le même parallèle de l'histoire quand Saül régnait sur Israël, puis avait été rejeté comme roi, puis un autre roi avait été oint à sa place, puis ce roi-là s'appelait David. Puis David devait prendre le titre de royauté, mais il ne l'a pas pris tout de suite, parce que Saül ne voulait pas y laisser. Fait que Saül a continué à exercer son règne, son autorité sur Israël, puis servait de son autorité pour essayer de combattre David, puis de le tuer, pour l'empêcher de prendre sa place. Mais il est arrivé un temps que David, il a été, que Dieu il a ouvert les portes à David, puis il a ouvert son chemin, puis que David il a pris son autorité, puis il a reçu la royauté, puis il a régné sur Israël pendant 40 ans. Mais il a fallu que Dieu y rouvre le chemin. C'est le même parallèle avec Jésus. Jésus a reçu tout pouvoir venant du ciel. Puis il a vaincu le diable, puis ses armes dans lesquelles que le diable se confiait, c'était le péché. Il a expié le péché, fait que le diable, en fin de compte, n'a plus réellement d'armes. Il est l'homme fort qui a été lié, mais s'il exerce encore un contrôle, c'est parce que les humains ne réalisent pas que tu peux aller à Jésus puis recevoir cette délivrance-là, puis cette guérison-là, puis ce salut-là. Puis il se laisse aller à un contrôle volontairement sans réaliser qu'il y a une porte de sortie déjà payée. Savez-vous que Jésus, il est en attente présentement que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds? Dans 1 Corinthiens 15, 25, 26, ça nous dit, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » C'est ça qui est l'histoire du parallèle entre le roi David qui n'a pas pu prendre sa royauté, puis que Jésus, il est en train de régner, mais le diable y agit encore, puis que là, il règne jusqu'à temps que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Ça sous-entend qu'il y a un délai avant que Jésus prenne toute la place. Mais sachez que ça s'en vient. Jésus revient bientôt. Quand il va revenir, ça va être pour prendre sa place. La Bible nous dit que le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. La Bible nous parle quand à la fin de l'histoire de l'humanité, le ciel et la terre vont disparaître dans le mode de vie qu'on comprend maintenant, puis voir un nouveau ciel, une nouvelle terre où ce que la justice va habiter, où ce que Jésus va régner éternellement, puis qu'il n'y aura plus de mort. Parce que la mort va être vaincue, c'est le dernier ennemi qui reste à vaincre. Mais d'ici à ce temps-là, il y a des combats qui sont en train de se faire, spirituellement parlant, entre Jésus et ses armées, puis entre le prince des ténèbres et son armée. Il y a un combat qui se passe présentement sur la terre. Le diable, il sait qu'il n'y a plus grand temps. Il n'y avait plus grand temps dans le temps de Jésus, il y a 2000 ans. Fait qu'il en reste encore bien moins de temps. Puis là, il essaye. Il ne faut pas oublier que Jésus règne. Jésus est tout puissant. Tout pouvoir lui a été remis. Le diable n'a pas tout pouvoir. Vous n'avez pas à vous laisser guider par le diable ou à vous laisser mener ou à vous laisser contrôler. Tout pouvoir est en Jésus. Puis celui qui est en Jésus a reçu une pleine autorité de l'autorité de Jésus qui est sur vous. Puis vous pouvez combattre l'ennemi, la même chose que Jésus le combattait il y a 2000 ans. Dieu va assujettir et détruire tout chacun de ses ennemis. Le diable, dans son temps, il va être éliminé pour de bon. Mais Dieu permet que l'histoire continue un peu comme ça, où ce que le diable règne, puis il fait du ravage, mais que le peuple de Dieu combat, puis le peuple de Dieu réchappe des hommes en lui parlant de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu, et que les gens y adhèrent par la foi, puis ces gens-là changent de royaume, puis maintenant ils appartiennent à Jésus, puis ces gens-là marchent déjà dans la victoire accordée par Jésus. Alléluia. Dans l'Apocalypse, on dit qu'un jour que le diable va être fini son histoire. Apocalypse 20:10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, puis seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Un jour, le diable va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça a été préparé pour lui, ça. Dans Matthieu 25, ça nous dit que l'étang ardent de feu et de soufre a été préparé pour le diable et pour ses anges, et son jugement à lui. Puis un jour, il va être jeté dedans, puis il va être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire sans fin. Il ne pourra jamais sortir de là. Puis le dernier ennemi, c'est la mort. Ça, je l'ai expliqué, quand il va y avoir la résurrection de tous les corps, après ça, la mort, oubliez ça, il n'y aura plus, on va vivre éternellement dans un corps qui est éternel, sans maladie, sans souffrance, sans peine. Dieu, ça, il va nous renouveler une joie continuelle, une paix, un amour, on va être heureux, fini les problèmes, on va manger et boire, juste pour le plaisir de manger et boire. Ben, Jésus dit, allez boire du vin à ma table. C'est du vin nouveau. On va boire du vin pour le plaisir d'en boire parce qu'on n'aura pas besoin de nourriture pour survivre. Faut pas oublier qu'un jour, tous genoux fléchiront puis toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est écrit dans Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu est glorifié quand tous les gens disent « Jésus est le Seigneur ». Alléluia! Dieu est glorifié, c'est à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! La Bible nous parle d'une vision future que Jésus sera le guide des nations puis va les paître. Dans Apocalypse 7, 17, ça nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra puis les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Alléluia! Jésus va nous paître, il va nous conduire, il va nous guider aux sources des eaux de la vie. C'est ça l'Évangile de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Ce que je viens de vous dire là, de la victoire qui était accomplie en Jésus, c'est ça qui est l'Évangile. Quand on dit « il est allé prêcher l'Évangile à toutes les nations », c'est ça qu'il faut prêcher. Jésus a payé la dette du péché. Jésus a renversé Satan et tous ses démons. Il a détruit ses œuvres. Il a enlevé ses armes dans lesquelles il se confiait. Jésus offre d'être guéri, d'être délivré, de recevoir la vie éternelle. Jésus offre une vie sans fin où on va vivre éternellement dans son royaume. Puis tout cela, c'est gratuit. Il y a un seul petit hic. La Bible nous dit que pour être efficace, l'Évangile doit être cru, reçu et gardé avec persévérance tel qu'elle a été présentée. 1 Corinthiens 15, 1 à 3, ça nous dit « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. » À quelque part, il est important de garder la foi, quand on disait que c'était quelque chose de précieux, la foi. Faut pas mettre notre foi dans n'importe quoi. Faut mettre notre foi dans l'Évangile de Dieu. Cet Évangile nous parle de l'œuvre que Jésus a accomplie. Il a tout accompli. Ça nous parle d'une résurrection. Puis quand on a cette résurrection, grâce à l'œuvre accomplie, c'est un cadeau gratuit que Dieu offre par la foi. Quand si une personne dit, « Ah ben moi, je le crois que Jésus il est venu v'là 2000 ans. Je le crois qu'il est mort sur la croix, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'ennemi, qu'il est venu pour payer mes péchés, qu'il est venu pour payer mes maladies, puis me donner une délivrance, puis une guérison. Je le crois. » Mais là, je réalise que je suis pécheur devant lui, que je suis un rebelle devant lui. Quand tous les jours, je continue à désobéir à son plan, je le regrette de vivre comme ça. Puis qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais le prendre, Jésus, comme mon sauveur. Par la foi, je le reçois, puis je le veux, puis je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, là, je veux marcher dans ce que tu t'attends de moi. Je veux marcher selon ce que tu m'as enseigné. Je veux obéir à ta parole. Je suis tanné d'être rebelle. Je suis repentant. Je change de vie. Je veux marcher avec toi. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, puis si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur, tu seras sauvé. Tu vas faire partie des élus, tu vas faire partie de ceux qui ont reçu le cadeau de Dieu à cause de la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée. C'est l'Évangile de Dieu. la bonne nouvelle de Dieu. Laissez pas Satan vous enlever par ruse, par menterie, par mensonge. Il peut arriver et dire, c'est pas vrai, je te tiens captif. T'es captif, tes parents t'as captif, tu l'es encore captif. T'es malade, puis il faut que tu l'acceptes ta maladie. Tu vas vivre comme ça. T'es dans tes péchés, tu t'en vas vers la mort. Dieu veut te juger, puis tu vas être condamné. Dieu, il est méchant, puis il veut condamner tout le monde. Puis Dieu, il veut te laisser aller à ce que tu vis là. Puis, crie-les pas, Jésus, parle pas de Jésus, tiens sa mort. Étouffe ça, là, puis pense à ta religion que tu es en train de pratiquer. Pense à tes rituels. Pense aux démons qu'on t'apparaît, puis qu'on te donne des visions, puis qu'on te donne des rêves. Pense à qu'est-ce qui... Laissez-les pas vous enlever. Savez-vous que l'Évangile, c'est le seul moyen, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis si vous y croyez que l'Évangile peut vous sauver, laissez-les pas prendre, parce que la Bible nous dit dans le dernier passage que s'il y a encore des incrédules, des gens qui ne croient pas, c'est parce que le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 3, 4. Laissez-les pas vous enlever ce que Jésus a tout déjà accompli. C'est pour vous, chacun de vous. Pendant que les musiciens vont s'avancer, je laisse encore la chance aujourd'hui. La chance, c'est plus pas une chance. C'est pas un hasard que vous êtes ici. C'est pas un hasard que vous entendez le message de l'Évangile. C'est pas un hasard que vous avez entendu le plan de Dieu pour chacun de vous, du moyen gratuit d'être sauvé. Dieu veut que vous laissiez la chance ce matin, ou pas, oubliez ça, la chance, vous laissez l'opportunité de le recevoir, le cadeau. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'on est sauvé. Pas par nos œuvres, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est plus important, c'est plus précieux que tout l'or de ce monde. Mettez votre foi en Jésus. Prenez-le comme votre sauveur personnel. Recevez-le comme votre maître. Votre vie va changer complètement. Vous allez recevoir les guérisons qu'il y a pour vous. Vous allez recevoir les délivrances qu'il y a pour vous. Vous allez recevoir l'Esprit Saint qui a été promis, qui a été envoyé du Père, que dans lequel il est distribué sur les gens qui s'approchent de lui. Vous allez avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Puis quand vous allez mourir, vous allez rentrer dans la présence de Dieu et vivre éternellement avec lui. Est-ce qu'il y en a qui sont ici présents, qui ont entendu ce message, puis se disent, moi je veux l'accepter, Jésus. Moi, je veux croire ce qu'il y a. Je veux le prendre, je veux le recevoir. Je veux pas sortir d'ici sans avoir reçu tout ce que Dieu avait à me donner. S'il y en a des gens qui sont ici, levez votre main. Je vais prier avec vous. On va inviter Jésus à rentrer dans votre cœur. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un cœur, qui se disent, moi, je le réalise que c'est vrai. C'est vrai que l'Évangile est, que Jésus est venu et qu'il nous a prêché l'Évangile. C'est vrai que le 2000 ans, il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Et si vous le croyez à ça, répondez à l'appel. Il y a un verset qui nous dit, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur, puis dites au Seigneur, « Seigneur, viens. Prends ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que tu me donnes la victoire à cause de tout ce que tu as fait. Je reconnais que tu es le Seigneur et que tout pouvoir t'a été accordé. Je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie, de pardonner tous mes péchés, de me purifier de tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi dans tes voies. Je te le demande dans le nom de Jésus, Père. Amen. Si vous avez fait cette prière et vous le croyez, vous êtes sauvé. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous appartenez maintenant à Jésus. C'est Jésus qui règne sur vous maintenant. Vous êtes sorti de la puissance des ténèbres et vous êtes maintenant dans le royaume de la lumière. Vous faites partie des enfants de Dieu. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu pour recevoir les instructions. Joignez-vous à une église locale où ce que la parole de Dieu est enseignée. puis continuez à grandir dans la foi avec d'autres qui croient la même chose, puis vous allez vivre une nouvelle vie avec Jésus. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en Christ, celui qui est en communion avec Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé, toute chose est devenue nouvelle, parce que Dieu règne dans votre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont fait la prière, je vous demanderai de venir en avant, on va prier ensemble.